Histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.
Bernard Vacherot, revenons un peu sur cette rose-là qui voulait civiliser.
Eh oui, rose qui justement voulait civiliser, qui est christianisée, etc. Et qui partait de l'idée intéressante qu'il faut justement s'acculturer pour commencer à missionner dans les peuples non chrétiens. Autrement dit, il recommandait de ne pas tout rejeter de la culture des autres peuples, mais de savoir, au contraire, y pénétrer, s'en informer, et voir comment on pouvait combiner la culture de ces peuples et le christianisme. Hein. Alors, il est là-dedans, il n'est pas le seul à son époque à penser ainsi. Il est à ce propos dans la même ligne que Saint Martin de Tours, même si ce dernier n'a pas toujours été très complaisant envers la vieille culture romaine et gauloise, puisque, par exemple, en bien des circonstances, il a fait renverser des statues ou des anciens temples gallo-romains. Bon, donc, là-dessus, oui, on peut dire Martin de Tours, mais, avec certaines réserves. Beaucoup moins, disons, réservé par rapport à Saint Honorat, évêque d'Arles, entre 350 et 430. On va parler de Saint Rémy aussi, évêque de Reims et de ses clercs, entre 437 et 533. Et surtout, alors, du grand Saint Grégoire le Grand, qui a été pape entre 540 et 604, hein. Alors, dans un même sens, toujours en Espagne, ont agi d'autres hommes, comme Saint Léandre qui est mort entre 600 et 601, on ne connaît pas sa date de naissance, enfin, du moins moi, je ne la connais pas, et Saint Isidore, qui lui-même est décédé, là aussi, même chose, pour moi, date de naissance inconnue, mais qui est décédé en 636. Alors, tous les deux furent évêques de ces villes. Le grand événement fut en 588 la conversion du roi Visigoth Recared ou Recarel, suivant les orthographes qui sont donnés. Alors, Recared ou Recarel, ami espagnol et Visigoth, en une même communauté de foi et de politique, on va dire, dans une même Espagne chrétienne. Ainsi, avec l'Irlande, puis la Gaule, l'Espagne, et enfin la Germanie, avec le moine anglais Winfried, plus connu sous le nom de Boniface, connu entre environ 673 ou vers 673 et 754, l'Europe commence à être petit à petit convertie au christianisme. Vous voyez que ça prend quand même un certain temps, hein. La chose se poursuivit jusque vers la fin du 7e siècle, en Croatie et en Serbie. Alors au cours du 9e siècle, ce sera au tour du Danemark, du Schleswig et de la Suède, de passer au christianisme. Grâce aux missions des moines comme Saint Enchère de Corbie, Gaule dans la Somme, hein, ne pas penser à l'Espagne Corbie, non, ça c'est en Gaule, en France, dans le département de la Somme, et qui, accompagné de ses moines, entreprit la conversion de ces pays. Toujours dans cette même période du 9e siècle, les saints Cyril et Méthode missionnèrent les pays slaves comme la Tchéquie et la Bulgarie. Tout ça, je vous parle de moines, hein, d'accord? On reste toujours dans notre optique. Puis alors, à partir du Xe siècle, nous avons des prêtres slaves, bohèmes, allemands, qui sont partis et qui ont christianisé la Pologne. En fait, durant les 10 et 11e siècles, la Russie, les Magyars, les Hongrois, les Baltes furent progressivement christianisés. Et on sait qu'en 954, la grande duchesse Olga de Kiev fut baptisée et son petit-fils Vladimir Ier, qui épousa la sœur de Basile II de Constantinople, surnommée le Bulgaroktone, empereur byzantin de 961-1025, qui a complètement soumis les aristocrates, qui a battu les Fatimides, cette dynastie musulmane chiite, de tendance ismaélienne, c'est-à-dire persane, originaire d'Afrique du Nord-Est, puis présente en Égypte et fondée par Ubayd Allah, quand il fut à Kairouan, en Tunisie, entre 909 et 910. Bon, alors là, j'ai passé un peu rapidement, vous l'avez senti volontairement, hein. Le dernier calife des Fatimides a été renversé par Aladdin Ier, Salah al-Din, Yusuf Sultan Ayyubid d'Égypte, entre 1170 et 1193. Alors, pour terminer, je dirais que Basile II a conquis la Bulgarie et fut celui qui apporta l'Empire à son apogée. Vladimir Ier, donc slave, ordonna de procéder à des baptêmes en masse. Là, plus question de liberté de religion, ça avait nettement un caractère politique. Il ne faut pas se leurrer. Bon. Alors voici donc comment, de manière très sommaire, on vient d'aborder l'histoire de la conversion des pays composant l'Europe traditionnelle entre la fin du IVe siècle et la fin du XIe siècle. Nous y avons par endroits évoqué l'influence et la présence des moines, et si nous n'avons pas précisé celle des moniales, ce n'est pas qu'elle n'y était pas présente, c'est parce que les documents nous manquent pour parler de leur rôle avec une connaissance précise et réelle.
Comme par hasard, dirait quelques femmes.
Oui, comme par hasard. Oui, on peut toujours dire. Mais oui, malheureusement, on a manqué de documents là-dessus et c'est un fait. Bon. Alors c'est pour cela que, en 754, le pape Étienne II vint à la basilique Saint-Denis dans la région parisienne, pour y sacrer Pépin le Bref, roi des Francs et patrice des Romains. Vous voyez qu'on a, gardé là le vieux patricia romain, et que l'on voulait, que Rome a toujours un peu voulu balancer partout. Ça, c'est l'esprit romain. Et lui donner autorité sur l'exarchat byzantin. Et oui, Déjà, Rome voulait dominer les exarques byzantins, province impériale, de Ravenne en Italie, alors occupée par les Lombards, ce qui ne lui a pas donné une réelle autorité à notre cher roi, qui était donc dans cette situation, puisque son exarchat était occupé par ses ennemis les Lombards. Comment, quelle autorité pouvait-il avoir, sur un pays dans lequel il ne pouvait même pas rentrer? C'est quand même un peu grotesque, Alors Rome donnait ainsi, je vais reprendre le mot de l'écrivain Roger Perfitte, méchant, donnait du vent et des rêves, vieille habitude romaine. On souffla moins de vent à Rome quand la papauté, voulant achever la soumission des Gaules germains, fit venir à Rome celui que le pape Léon III allait sacrer empereur romain d'Occident sous le nom de Carolus Magnus, soit Charlemagne, en l'an 800.
Chaque nuit se réduire en cendres, se laisser répandre dans les lavabos blancs. La solution est sans doute amène, si l'on considère qu'on ne sait pas où ça mène. Quelqu'un ici pourrait-il me dire quelles sont les raisons? Et les mains vers l'est, je veux toujours être ailleurs. J'ai la nausée quand je reste assis. Si je suis couché, je ne joins pas les deux bouts. Et je souris pour le photographe qui va nous figer, noter mon épitaphe, noter. Je me sens si bien hier matin que je voudrais être à demain. Les yeux et les mains vers l'est, je veux toujours être ailleurs. Toujours être ailleurs.
l'histoire des religions. La genèse du monachisme par Bernard Vacherot, curé de Caïdus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.
Bon alors à un quart d'heure de la fin, voilà dégainé Charlemagne.
Voilà donc, ce brave pape Léon XIII a soufflé un peu moins de vent, c'est-à-dire n'a pas agi comme le vent dans un verre d'eau, en nommant Charlemagne Carolus Magnus en l'an 800 empereur d'Occident. C'est ainsi que Rome scella l'alliance de Rome et des Francs. Le vieux rêve gallo-romain de César se renouvelle. Rappelons-nous, nihil novae sub sole, rien de neuf sous le soleil. Et le jour où, mon cher ami Jean, vous verrez à Rome du neuf, vous me le direz. Bien, nombreux furent aussi les accrochages qui se sont déroulés opposant la papauté romaine et avignonnaise, plus tard, à la royauté française, comme à celle des autres rois européens, ne serait-ce que durant les XIVe et XVe siècles, à propos des papes d'Avignon, pour ne parler que de ça, hein, parce que, bon. Alors, ce survol historique nous aura permis de réaliser l'importance et l'impact du rôle pourtant discret, on va dire presque secret, du moine espagnol Oroz, entre vers 375 et 420, ou à peu près. Et ce fut un des rois, un des rares, à ne pas être omnubilé par l'aspect négatif des conquêtes barbares. Même s'il ne le niait pas, il n'a jamais nié ce côté négatif. Mais il n'a jamais été non plus omnubilé par ça. Et au contraire, il y a discerné une possibilité missionnaire et par là même civilisatrice de ces peuples. Ainsi, il liait la mission spirituelle et la mission civilisatrice. L'union des deux conceptions de la mission a été lancée par ces moines et par ses ecclésiastiques. Civilisateur, civilisatrice, moine et monial le furent, tant au plan spirituel et religieux qu'au plan intellectuel, artistique, culturel, scientifique, pratique, et oui, l'agriculture, l'architecture, la taille de la pierre, les charpentes, etc., etc. Et ils le furent en préservant les cultures latines et grecques, tant en philosophie qu'en littérature. Bon, alors, est-ce à dire que tous les moines étaient cultivés? Non, pas certes. Il y avait même des abbayes où, on peut dire que seul le père abbé et les écrivains du scriptorium étaient cultivés, ou les autres. Ben non, pas. Mais, précisément, grâce au travail des moines et moniales, la culture latine a été florissante en Gaule méridionale durant le VIe siècle. Alors maintenant, s'il vous plaît, étudions cela de plus près avec l'œuvre d'un homme d'église nommé Avi de Vienne, qui eut à cet égard un rôle très important dans la vieille Gaule. Alors maintenant, voilà, nous allons aborder le rôle d'Avi de Vienne et de César d'Arles, deux grands moines, dans la littérature des 5e et 6e siècles. Il faut dire, chers amis, que l'Europe était en grand délabrement politique. Délabrement provoqué par les divers envahisseurs, nous en avons vu. L'Église se préoccupa de sauver la dignité humaine et d'éloigner celle-ci de ce qui la rabaisserait immanquablement. Alors, faire de l'homme Un homme, dans le grand sens du terme, suppose d'élever son esprit, de sauver sa culture quand celle-ci est en danger, menacée par la ruine déliquescente ambiante. Ce fut précisément l'œuvre des moines et des moniales parmi ces ecclésiastiques, dont Avi, évêque de Vienne, et César, moine et évêque d'Arles. Tous deux abondamment cités par Maurice Prou dans son ouvrage passionnant, un vieux livre, mais excellent. Son ouvrage, c'est « La Gaule mérovingienne » et je penserai, là j'utilise, à partir de la page 219 et suivante. Mais aussi par d'autres auteurs, comme Joseph F. Kelly, dans son « Dictionnaire du christianisme ancien » aux éditions Brépol 1994, ou Fernand Mouret, dans son remarquable ouvrage « L'Église et le monde barbare » aux éditions Blue et compagnie Paris 1909, ou encore de François Mou, de Fernand Mouret et de Jean Carrère dans « Précis d'histoire de l'Église » auditions Blood et Gay, Paris 1923. Et on pourrait citer beaucoup d'autres auteurs parmi les plus sérieux et les plus scientifiquement exigeants.
Donc si je vous suis bien, l'avis de Vienne, très important.
Ah, tout à fait.
Donc ça veut dire qu'il faut commencer par lui dès la semaine prochaine.
Oh là là, je te sens venir. Allez, à bientôt.
Au revoir.
L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.